Le but premier de ce balado est d'éduquer et de susciter des réflexions quant aux préconceptions qui peuvent influencer certaines actions, certaines décisions, certaines pratiques. Il se veut non pas accusateur, mais plutôt moteur d'un changement pour davantage de pratiques centrées sur les forces et l'affirmation. Les opinions exprimées dans ce balado sont uniquement celles des personnes concernées. Bonjour, mon nom est Marjorie Desormeaux-Moreau. Je suis née et j'ai grandi au Québec, au Canada, où je vis d'ailleurs toujours. Grande curieuse, passionnée de lecture et ergothérapeute de formation, je m'identifie comme professeure et chercheur autiste. Mon propos et mon positionnement s'enracinent donc dans un croisement de savoirs expérientiels, professionnels et scientifiques. Vous écoutez Être humain, rencontre et accompagnement, un balado qui s'attarde aux construits normatifs ainsi qu'aux biais implicites qui influencent les pratiques professionnelles. Je suis enchantée de pouvoir avoir cette discussion aujourd'hui avec Guylaine Sarrazin et Adèle Morvanou. Guylaine Sarrazin est travailleuse sociale de formation. Elle travaille depuis 25 ans dans le domaine de la dépendance et agit également en tant que formatrice. Pour Guylaine, il est important d'inscrire sa pratique dans une approche bienveillante et respectueuse des personnes ainsi que leur unicité. Son apport sur le thème abordé dans cet épisode s'appuie sur un savoir professionnel. Originaire de la France, Adèle Morvanou vit depuis une dizaine d'années au Québec. Psychologue de formation, Adèle est professeure à l'Université de Sherbrooke au programme en toxicomanie. Ses activités d'enseignement et de recherche portent sur les dépendances comportementales, le concept de passion, la stigmatisation et les femmes qui vivent des problèmes de jeu. Son apport sur le thème abordé aujourd'hui s'appuie sur un croisement de savoirs professionnels et scientifiques. Guylaine, Adèle, bienvenue et merci d'avoir accepté de prendre part à cet épisode.
Bonjour.
Bonjour.
Ce troisième épisode s'intitule « Être humain, moi, le pouvoir, l'empathie et l'humilité dans l'accompagnement et la relation d'aide ». Dans cet épisode, on s'attarde aux réflexions d'Adèle et de Guylaine sur leur propre posture comme professionnelles. On s'arrête aussi sur la façon dont elles perçoivent les personnes avec qui elles travaillent, en intervention ou en recherche, sur le rôle des personnes intervenantes et professionnelles et sur la relation d'accompagnement. Je leur donne la parole en leur demandant, pour commencer, de nous parler de leur posture par rapport à la façon d'entrer en relation et d'établir un lien, une alliance thérapeutique.
Pour ma part, en relation d'aide, je pars toujours avec la prémisse que je n'ai pas le savoir. En réalité, pour moi, c'est vraiment la personne que je rencontre qui a des problèmes et qui est l'experte de sa vie et de son expérience. Et j'aurais jamais l'audace de croire que je sais mieux qu'elle ce qu'elle vit. Comme professionnelle, en tant que psychologue, j'interviens, mais c'est la personne qui se rétablit. C'est elle qui décide quand et comment elle évolue. Par exemple, dans le domaine de la dépendance, est-ce qu'elle veut être abstinente ou est-ce qu'elle veut avoir une consommation d'alcool plus contrôlée? Est-ce qu'elle veut continuer à consommer du pot, par exemple, mais arrêter la cocaïne? C'est à elle de décider. Moi, je suis ouverte à collaborer vers un objectif commun. J'accompagne la personne dans ses réflexions et les changements que elle veut faire. C'est important pour moi, comme professionnelle, de renoncer à contrôler et à vouloir faire évoluer la personne d'une certaine manière, à un certain moment donné. Il y a définitivement un deuil à faire, je pense, quant au pouvoir que l'on croit avoir quand on pense savoir ce que la personne vit et ce qu'elle devrait faire, et aussi un changement de représentation de ce qu'est la relation d'aide. Je ne suis pas la personne toute puissante qui sait comment faire et mieux faire pour la personne. Je pense que c'est essentiel d'apprivoiser une certaine humilité dans la relation d'aide qui va être essentielle pour avoir des pratiques efficaces et respectueuses de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on fait avec elle est complètement inutile comme intervenant. Au contraire, en fait, si elle le fait à sa manière, souvent ça va être beaucoup plus efficace. D'où l'importance de continuer à écouter l'autre, à entendre ses besoins et collaborer au mieux pour y parvenir.
C'est vraiment intéressant ce que tu viens de nommer, Adèle. Puis, ça reprend en fait un terme, un mot qu'on a entendu dans un épisode précédent, l'humilité. L'humilité comme vertu à cultiver, on l'avait entendu dans l'épisode précédent, comme possibilité pour limiter les injustices épistémiques. Toi, tu y reviens en lien avec l'établissement de la relation. Est-ce que c'est aussi un concept auquel tu as réfléchi de ton côté, Guylaine?
Mais oui, bien sûr, et je dirais que l'humilité, moi, ça m'amène à parler d'un concept que je trouve très important qui fait référence à la neutralité, au non-jugement. En fait, il faut savoir que la neutralité, ça n'existe pas dans son entièreté, et de là l'importance, surtout dans l'intervention. Comme on est notre propre outil de travail, nous avons une responsabilité de bien se connaître, de revisiter son histoire personnelle, familiale, ses expériences de vie, ses blessures, parce qu'à défaut d'en prendre connaissance ou conscience, je dirais que c'est un peu comme un angle mort, ça risque parfois de faire porter aux personnes qui nous consultent nos propres enjeux personnels. Donc, je trouve essentiel d'être authentique à soi et à l'autre. Je dirais aussi que dans mes interventions, je m'invite également à la prudence parce qu'il y a des situations où je peux rencontrer des problématiques similaires à mon histoire de vie, qui c'est vrai que de prime abord, bien, ça peut me donner le sentiment de comprendre de facto l'univers de l'autre. Ça peut être même rassurant. Mais c'est vrai aussi qu'il peut y avoir une reconnaissance de certains aspects de vie, mais il faut quand même se rappeler que chacun est porteur de sa propre histoire, de sa propre compréhension de sa réalité. Ce qui revient à dire que chaque personne est unique et singulière, et c'est très important de s'y intéresser pour vraiment bien l'accompagner. J'ajouterais peut-être un autre élément, moi, que je trouve super important, c'est qu'il y a autant d'ethnicité chez les personnes qu'il y a de diversité. D'ailleurs, on en parle beaucoup de la diversité. C'est en soi une belle nouvelle, mais j'espère que ça va se traduire aussi davantage dans nos services. Car je dirais que souvent, j'ai l'impression que dans notre société, malheureusement, on a tendance à mettre parfois les personnes dans des cases sur la base de défis perçus.
Et les petites cases dont tu parles, Guylaine, ça évoque pour moi le concept de généralisation abusive. Puis ça vient faire écho à certains propos qu'on a entendus, encore une fois, là, dans nos épisodes précédents. Quand on étudie ou qu'on travaille en santé ou en relation d'aide, ben nos connaissances sont pour beaucoup issues de recherches qui sont intéressées, qui ont étudié des groupes d'individus et de dangers. Ben ça revient à tomber dans le piège de la généralisation abusive en concluant que ce qui se dégage de ces études-là, ça vient nécessairement et systématiquement s'appliquer à chaque individu dans les groupes concernés. Alors que parfois, ben c'est pas du tout le cas. J'ai envie maintenant de vous demander comment vous vous représentez l'intervention et les personnes qui peuvent l'offrir ou encore qui peuvent la recevoir.
Pour moi, en fait, dans la société, on a encore malheureusement une vision assez centrée sur l'individu et on fait souvent porter, généralement en tout cas, à lui seul la responsabilité de ce qu'il va vivre, des défis qu'il va vivre, des problèmes qu'il va vivre. Donc, on lui fait porter toute la culpabilité de ses problèmes. Dans le domaine des jeux de hasard et d'argent, par exemple, les mesures de prévention pour réduire les risques de développer des problèmes de jeu avec les machines à sous sont nommées des mesures de jeu responsables. Mais rien que le terme utilisé en dit long sur notre vision de qui porte cette responsabilité-là. Il s'agit pour la personne qui joue de se faire elle-même interdire de casino, de se mettre des limites de temps ou d'argent sur les sites d'Internet. On observe en fait qu'on questionne beaucoup la responsabilité des personnes qui jouent, mais peu ou moins la responsabilité de l'État, par exemple, qui a pourtant la responsabilité sociale de protéger la population. Pourtant, quel que soit le problème de santé mentale que vit une personne, que ce soit des problèmes de dépendance aux substances comme l'alcool, comme n'importe quelle drogue ou encore les jeux de hasard et d'argent, c'est aussi un problème systémique. C'est-à-dire que c'est un problème que vit la personne, mais qui a été encouragée par beaucoup d'autres facteurs qui vont être extérieurs à elle. Par exemple, certaines femmes qui jouent aux jeux de hasard et d'argent et qui rêvent de gagner le gros lot, sont souvent des femmes, pour certaines, qui vont avoir peu de revenus, d'autres vont être très isolées socialement, d'autres vont enchaîner les petits boulots et vivre beaucoup de difficultés, d'autres vont avoir vécu des traumatismes pour lesquels elles ne vont pas avoir eu accès aux services appropriés pour les aider. Puis le jeu va venir combler des besoins spécifiques qui pourraient être répondus autrement si la société avait évolué sur certains aspects.
La responsabilisation de l'individu dont tu parles, Adèle, on l'observe aussi en lien avec beaucoup d'autres expériences. C'est pas rare, si je donne un autre exemple pour décontextualiser, convient attribuer aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant la responsabilité de s'organiser pour se rendre à leurs rendez-vous, notamment médicaux, psychosociaux, de réadaptation, dans des établissements qui ne sont pas particulièrement, qui sont parfois même pas du tout accessibles pour elles. Dans ton exemple, Adèle, tout comme dans celui que je viens de partager, on responsabilise les personnes pour des problèmes qui sont en fait systémiques. Qu'est-ce que tu en penses, Guylaine?
Mais bien sûr que la personne peut elle-même amorcer, effectuer des changements dans ses habitudes. Je pense, exemple, en lien avec la consommation de substances psychoactives, le jeu d'hasard et d'argent, la problématique d'Internet. Mais il faut savoir que ces changements-là auront également des répercussions dans l'entourage puis le réseau de la personne. Peut-être une petite précision, c'est quand on fait référence à l'entourage, ça inclut les proches, mais ça peut aussi inclure ce qu'on appelle les composantes sociétales, c'est-à-dire tous les acteurs qui gravitent dans l'environnement des personnes, comme par exemple les milieux scolaires, celui du travail, le social, etc. En fait, le fait d'intervenir auprès de la personne et son entourage, ça comporte plusieurs avantages. Ça permet d'avoir une lecture dynamique et relationnelle. Ça facilite aussi, je dirais, une meilleure compréhension à la fois des enjeux, des besoins, des compétences. On pourrait même parler de la fonction de la dépendance. Et ça facilite également un meilleur accompagnement vers une recherche de solutions. Donc, on comprend que le changement, il va se réaliser tant par la personne qui a une dépendance que par l'ensemble des personnes impliquées. À cet égard, je te dirais qu'il est souhaité, voire recommandé, d'avoir une offre de service aux membres de l'entourage. Par expérience, c'est un levier super important, et ce même pour les proches dont la personne qui a une dépendance ne consulte pas ou ne reçoit pas de service. Une autre idée que je trouve importante à mentionner, c'est qu'on pense souvent à la recherche de reconnaissance par les professionnels. Mais dans les faits, les personnes qu'on accompagne ont aussi, sinon plus, de besoin de reconnaissance de leur expérience personnelle dans leur vécu. Je pense entre autres à une personne qui va nous dire « ben moi, je me sens pas comprise dans ce que je vis, ce que je ressens », et que l'on réinterprète pour elle le savoir, sans être à son écoute, ni coller à son expérience, mais ça peut parfois créer chez des personnes de la fermeture, parfois même briser le lien de confiance ou tout simplement qu'elles abandonnent leur suivi.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu apportes, Guylaine. En fait, selon mon expérience, les personnes qui entreprennent des changements dans leur vie, avec notre soutien, elles ont besoin d'humanité de notre part, elles ont besoin d'ouverture et évidemment d'empathie. Mais l'empathie, selon moi, c'est un peu un mot galvaudé en intervention. C'est quoi finalement l'empathie? C'est une compétence qu'on développe et qui peut continuer à se développer tout au long de la vie et qui a trois composantes. La première, être capable d'observer une émotion chez l'autre. La seconde, de comprendre ce pourquoi cette personne-là ressent cette émotion. Puis la troisième, c'est arriver à se dire, si j'étais à sa place, j'éprouverais sûrement la même chose ou différemment. Donc avoir de l'empathie, c'est avoir la capacité d'avoir des points de vue émotionnels différents. C'est se décentrer de soi, c'est créer une connexion émotionnelle avec l'autre. Puis selon les études scientifiques, on sait que ce qui peut diminuer l'empathie des intervenants, ou n'importe qui d'ailleurs, c'est par exemple les préjugés. Parce qu'avoir des préjugés ne nous permet plus de comprendre l'autre puisqu'on est dans le jugement. Mais aussi être exposé à une grande détresse humaine sans pouvoir agir diminue aussi l'empathie, ce qui crée un sentiment d'impuissance et qui nous encourage à nous replier sur nous-mêmes ou à nous replier sur notre groupe d'appartenance, ceux qui nous ressemblent. Puis dans ces cas-là, pour se protéger, on n'est plus du tout ouvert à l'émotion de l'autre, on est moins empathique. Heureusement, on sait aussi comment faire pour encourager l'empathie. En fait, ce sont toutes les activités qui vont permettre un changement de perspective émotionnelle, comme par exemple réaliser des jeux de rôle, dialoguer pour accéder au point de vue des autres. Il y a un neuropsychiatre français, Boris Cyrulnik, qui nous rappelle dans ses travaux qu'il y a trois principes clés pour développer l'empathie au quotidien. Le premier, c'est se mettre en quête de nouvelles perspectives et de nouvelles expériences. Le deuxième, saisir l'opportunité d'établir des connexions émotionnelles. Et le troisième, c'est être consciente ou conscient de ses propres préjugés.
Vous avez parlé, Adèle et Guylaine, d'empathie, d'humilité et de notion de pouvoir. Les personnes qui nous écoutent se disent peut-être, c'est des bien belles idées tout ça, mais concrètement, comment est-ce que ça se manifeste en pratique? Est-ce que vous auriez des pistes, des avenues, des stratégies à leur proposer?
Et déjà, on voit une évolution des pratiques, heureusement, à différents niveaux, qui permettent de dire que oui, ça ça commence ou ça évolue dans certains domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé, où des associations de patients ont vu le jour dans certains hôpitaux pour que le vécu des patients soit entendu et pris en considération pour faire évoluer les services selon leurs besoins. Ça, c'est un premier point, mais aussi un autre exemple d'évolution des pratiques peut être le domaine de la recherche, où il y a des initiatives de patients partenaires qui ont vu le jour, ce qui permet aux personnes qui vivent la problématique d'être impliquées avec une redistribution des pouvoirs qui reconnaît l'importance du point de vue et de l'expertise du patient ou de l'usager. Ça, c'est une belle reconnaissance du savoir expérientiel avec un équilibre plus équitable entre le poids accordé au savoir scientifique et à l'expérientiel. Un dernier exemple d'évolution des pratiques que je vois, c'est en enseignement. Par exemple, dans mes cours, mais heureusement, je ne suis pas la seule, je collabore avec des personnes qui vivent la problématique enseignée. Par exemple, la cyberdépendance ou une personne qui a des problèmes de jeu avec les machines à sous. Et je les invite dans mes cours que je donne aux futurs intervenants pour que soit entendu leur vécu et ce qui les a aidés et moins aidés dans leur parcours, mais aussi pour favoriser les attitudes et les comportements respectueux avec les personnes concernées. Quand on est dans la relation d'aide ou qu'on apprend la relation d'aide, on doit aller chercher et développer l'humanisme qui est en nous et le mettre au service de ces personnes si elles le souhaitent, évidemment. Puis ça passe par une connexion émotionnelle, comme le développement de l'empathie, par exemple.
Je pense au dernier point que tu viens aborder, Adèle, puis j'imagine qu'il faut faire preuve de vigilance pour éviter que les situations ou que le vécu soit partagé par les personnes invitées en classe ou même par les personnes étudiantes qui auraient elles-mêmes un savoir expérientiel et qui en feraient le partage à l'intérieur des activités ne soient invalidées par d'autres personnes étudiantes, ce qui représenterait ultimement une injustice épistémique, un concept qu'on a abordé dans le deuxième épisode du balado. Inversement, les personnes étudiantes qui ont peut-être elles-mêmes un savoir expérientiel ne doivent pas perdre de vue que leur propre expérience, elle est unique et qu'elles ne sont pas non plus exemptes et prémunies de facto contre les biais préjudiciables. C'est un point important aussi à avoir en tête. Toi, Guylaine, qu'est-ce que tu proposerais comme piste?
Eh bien, peut-être en premier lieu, je dirais l'importance de redéfinir notre posture clinique, notre vision, notre rôle de professionnel, en centrant davantage, je dirais, sur les forces, les potentialités, les compétences des personnes et pas qu'uniquement sur les pathologies. En second lieu, beaucoup de choses, adopter une posture de collaboration, de partenariat avec les personnes et leur entourage pour à la fois leur donner une voix, une tribune pour honorer leur savoir, la recherche de savoir, pour entendre aussi leur réelle demande d'aide, connaître leur propre définition ou de leur situation, puis aussi pour s'intéresser à ce qu'ils souhaitent comme soutien. C'est donc dire que la personne qui consulte et son entourage doivent faire partie obligatoirement de l'équation dans cette recherche du mieux-être. Puis finalement, j'aimerais ajouter un autre élément que je crois primordial, c'est le développement et l'actualisation des pratiques intégrées.
Guylaine, Adèle, merci pour votre contribution. Merci pour vos partages qui témoignent de vos capacités d'introspection. J'aimerais conclure en vous demandant quel est le message clé avec lequel vous repartez de cette rencontre?
Eh bien, moi, je dirais de considérer l'entièreté de la personne qui nous consulte. Co-construire avec la personne et son entourage en tenant compte de leur expertise et en tout lieu, que la personne et son entourage soient réellement au cœur de l'intervention.
Je dirais pour ma part, faire preuve d'humilité, être ouverte à la différence, toujours se remettre en question, prendre conscience de ses préjugés aussi, qu'ils soient autant positifs que négatifs, pour comprendre leurs implications dans l'intervention et connecter émotionnellement avec les personnes qui viennent nous voir comme intervenants.
Encore une fois, merci à vous deux. Merci également aux auditrices et aux auditeurs d'Être humain, rencontre et accompagnement, un balado qui a été créé par Marjorie Desormeaux-Moreau et Adèle Morvanou. Il a été diffusé en 2022 grâce à la collaboration de l'Université de Sherbrooke via son service de soutien à la formation et à la fabrique REL. Ce balado est disponible sous licence Creative Commons 4.0 CC BY NCSA. Vous êtes autorisé à utiliser, partager et adapter cette ressource selon les conditions suivantes. Effectuer l'attribution, pas d'utilisation commerciale et partager dans les mêmes conditions d'utilisation. Merci. La musique intégrée à cet épisode s'intitule « Hey Mercy ». Elle a été produite par Pierce Murphy sous licence CC BY.